Vous imaginez quel avenir pour les services des relations internationales, que ce soit de l'enseignement supérieur ou que ce soit des entreprises privées? Parce que j'ai du mal à m'imaginer qu'avec les relations entre États évoluant, tous les accords se faisant, qu'on ait toujours besoin dans 10 ans d'un service de relations internationales. Est-ce que le juridique et la propriété industrielle ne suffiraient pas au bout d'un moment et...
C'est impossible. Il y a tellement, si vous voulez, de complications administratives. La propriété donc intellectuelle aussi donc se développe de plus en plus. On en aura toujours besoin, si vous voulez, dans cette partie logistique et administrative. Donc après aussi, il faut innover, développer de nouvelles compétences dans la coopération.
Par exemple, on ne peut travailler que si on est bien en réseau d'université. En réseau d'université, on travaille en confiance. C'est-à-dire là, on fait beaucoup actuellement de bilatéral d'une université avec une autre université. En réseau d'université, on est 4 ou 5. À 4 ou 5, on peut répondre encore mieux à un appel d'offres européen, voire international, et avoir, si vous voulez, de l'argent de fonctionnement et des mobilités pour les étudiants. Voilà.
Et ça, il n'y a qu'un service de relations internationales qui est capable de mettre ça en place.
Je dirais qu'il n'y a qu'un très bon service des relations internationales.
Je pense qu'on en a eu besoin et on aura encore plus besoin, genre avec justement tous les nouveaux enjeux au niveau, enfin, que ce soit local, national et aussi international. Genre on peut de moins en moins se passer d'un service de relations internationales et des services administratifs associés, parce que justement je parlais tout à l'heure de cartographie. Ces cartographies, elles sont en train de plus en plus de se préciser, de se complexifier. Donc toutes les relations qu'il y a dans tous les sens, genre c'est pas possible de. Enfin, je vois pas une évolution sans les relations internationales, quoi. Ça me tombe tellement évident que je sais même pas quoi vous répondre. C'est évident. Genre, on va prendre un exemple, qui en est peut-être pas un, je sais pas. C'est effectivement, on a cette construction de l'Europe de la recherche, donc qui se construit d'année en année, qui se renforce. Les universités n'ont pas comme ça accès à toutes les universités européennes. Genre Montpellier 2, on va pas arriver de, à Uppsala et en disant « Salut, on est copains ». Non, enfin, c'est... Genre, effectivement, on fait partie d'un groupe au niveau État. Ça, c'est évident. Mais après, c'est pas parce que un accord est signé entre tous les pays de l'Union européenne qu'il va y avoir une relation particulière. Donc on a envie d'aller travailler avec Uppsala, mais il faut avoir une démarche proactive. Effectivement, ça va nous aider, ce contexte va nous aider à aller vers le pays, parce qu'on n'aura pas déjà tout ce qui est visa à faire, on n'aura pas ça. On a la même monnaie, il y a beaucoup de choses qu'on partage déjà, mais il y a aussi des différences. Et c'est vrai que si on a envie d'aller travailler avec quelqu'un, c'est parce que on a des points communs, effectivement, mais c'est parce que aussi on a des différences qui vont nous enrichir les uns les autres. Donc, c'est vrai que l'Europe, je pense qu'est une chance et n'a pas, ne va pas freiner ces relations parce qu'il y a déjà quelque chose d'établi, en fait, au contraire. Donc, une fois qu'on est dans ce gros réseau, de pouvoir aussi profiter des réseaux des autres, extérieur à l'Europe, et ça circule sans arrêt comme ça, quoi, sans arrêt. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire en relation internationale, à mon avis, quoi.
Pardon, c'est peut-être une question un peu bête, j'ai peut-être loupé des moments de la discussion, mais finalement, donc, vous nous avez dit, Autolin Claude, vous êtes hier, donc vous avez un parcours dans la recherche, donc entre votre thèse ou vos différents parcours et le moment où vous êtes allé dans les relations internationales, est-ce que quand vous avez eu votre poste d'hier, vous avez eu une activité de recherche ou votre poste d'hier vous a directement donné accès aux relations internationales? Parce qu'en fait, ce que je me demande, c'est ou même moi, si je veux, en admettant que ça y est, c'est ça que je veux faire de ma vie, ou n'importe qui, je veux aller aux relations internationales, c'est est-ce que je vais d'abord faire hier pendant X années travailler dans un labo pour acquérir quelque chose avant d'aller, ou est-ce que c'est...
Il y a dans ce cas-là deux voies d'accès, et peut-être que j'ai raté un truc dans le CV de Jean-Paul, mais il me semble qu'il a passé d'abord une petite étape recherche, donc après la thèse, petite, et après, donc comme il a dit, il a pris des responsabilités au niveau institutionnel et est arrivé aux relations internationales.
C'est plus une évolution,
en simplifié. Moi, au contraire, j'ai soutenu ma thèse, et enfin même le mois d'avant, je crois que j'étais au pôle universitaire en ayant arrêté la recherche. Voilà, mon chef. Donc il y a vraiment donc au moment où j'avais déposé ma thèse, en gros le lendemain, je prenais une carrière administrative pure, et puis j'ai pu remis les pieds dans la recherche paillasse, quoi, on va dire, hein. Plus du tout. Donc en fait, ingénieur de recherche, c'est juste un grade, un niveau. Et après, vous avez différentes spécialités, donc différentes BAP, donc des branches d'activité professionnelle. Et on peut très bien commencer par une branche d'activité orientée clairement recherche. Par exemple, dans un laboratoire, être responsable d'une plateforme technique. Et après, vous vous orientez sur un côté de plus en plus administratif et pilotage. Moi, je suis directement allée dans ce côté administration et pilotage, en fait, sans repasser par la case recherche. J'ai obtenu mon diplôme de docteur. Ça a été la clé pour pouvoir rentrer dans une autre carrière. Genre, c'est comme vous obtenez votre bac pour rentrer à l'université, quoi. C'est, pour moi, ça a été juste une étape, quoi.
Ingrid, et elle a dit tout à l'heure, effectivement, donc elle a passé sa thèse, et elle a été embauchée, mais comme elle a dit, elle avait fait les doctorales, et elle a fait un flash donc sur la culture scientifique. Et à partir de là, donc, elle a continué, et donc là-dessus, ça a été le relationnel. Mais si elle a eu son concours d'ingénieur de recherche, c'est parce qu'elle est allée aussi pendant 2 ans et demi. Au Chili. Donc, le conseil que je peux vous donner, donc, c'est d'abord faire votre thèse. Vous avez beaucoup de chance de décrocher un poste dans votre spécialité, mais en aucun cas dans l'international immédiatement. Parce que les postes d'ingénieur de recherche sont des postes aussi où il faut une expérience dans le domaine. Votre expérience, à vous, elle est dans votre spécialité. Dans la spécialité, bien sûr, là où vous avez votre thèse, mais dans la spécialité, là aussi où vous faites votre thèse, dans votre laboratoire. Donc c'est là que vous avez le plus de chance. Vous allez être en concurrence aussi avec des gens qui ont déjà fait des post-docs, parce que bon, sachez que ces postes-là sont aussi convoités par beaucoup de personnes. Je fais partie des jurys de recrutement. Alors, je suis, donc, comme a dit Ingrid, il y a les branches d'activité professionnelle, en biologie au sens général, puisque j'étais en pharmacie, et aussi, donc, après, les compétences acquises au niveau de l'international. Ces postes intéressent pas mal de personnes, donc c'est une concurrence. N'oubliez pas, donc, que plus vous aurez d'articles, mieux vous serez armé pour le faire. Comme je l'ai dit avant aussi, tout le côté associatif est très intéressant, tout est à prendre en compte. Donc pour ma part, ma bifurcation, donc si vous voulez, moi j'ai une expérience de chercheur, donc j'étais à la fac de pharmacie pendant une vingtaine d'années quand même. Et ensuite, donc j'ai travaillé avec, je pense que quelqu'un que vous connaissez bien, donc ça a été Jacques Demaille au niveau recherche et aussi quand il était président d'université. Et c'est à partir de là que j'ai bifurqué sur le pilotage institutionnel, quoi. Donc ça aussi, c'est les aléas de la vie. Mais vous avez deux cas d'expérience. Un immédiat, un autre, donc c'est dans la progression de carrière.
Pour répondre à ta question, en fait, c'est vrai que je ne rêvais pas depuis toute petite d'être ingénieur de recherche, administration, l'université, pas du tout. C'est vrai que ça a été... Je ne savais pas que ça existait. Quand je suis rentrée en thèse, je ne savais pas que ça existait. C'est vrai que ça a été un concours de circonstances et j'ai peut-être sûrement rencontré, on va dire, les bonnes personnes au bon moment. Mais j'ai rencontré ces personnes-là parce que je me suis investie, parce que j'ai une démarche proactive. Je ne suis pas restée dans mon labo à me dire « Tiens, je vais attendre que Jean-Paul Fernandez vienne me chercher. » Pas du tout. Je ne suis pas restée dans mon labo à attendre de rencontrer Luc Gomel en communication scientifique. Je me suis intéressée, je me suis dit... c'est vrai que commencé un peu au niveau de l'enseignement, donc initié à l'enseignement. ça convenait pas à ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est pas patiente, et donc enseigner à des étudiants, je trouvais finalement qu'il y avait d'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi dans le domaine, et je dis bon, hop, c'est pas pour moi en fait, quoi. Donc voilà. Donc après, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, en disant bah, je suis en thèse, on peut être enseignant chercheur ou chercheur. Donc le côté enseignant, bon bah bof quoi. Mon côté recherche, c'est sympa, mais il y avait quelque chose qui me manquait, quoi, parce que ben c'est vrai qu'on travaille en groupe, mais pour moi je trouvais que ce groupe n'était pas encore suffisamment étendu. Donc du coup ça me manquait encore plus, parce que le labo c'était pour moi une famille, et j'aimais bien aller voir un peu en dehors de ma famille. Donc c'est vrai que c'est pas venu immédiatement, et c'est vrai que j'ai fait ces doctorales, et je me suis rendu compte justement de la diversité des métiers qui étaient ouverts aux docteurs. Donc, je suis pas juste une géochimiste, quoi. Je suis une chercheuse, une spécialiste de la recherche en France. Point. Enfin, point, c'est pas mal. Mais donc du coup, en fait, c'est vrai que après ça a été par étapes. Donc communication scientifique, il y a certaines choses qui m'ont plu, d'autres choses qui m'ont moins plu. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire autre chose. Mais à chaque fois, c'est ces chances, je les ai initiées. Donc quand j'étais en communication, quand il a fallu passer à une autre étape. Donc je suis allée voir mon directeur en lui disant voilà, moi j'aimerais plus faire ci, plus faire ça, j'ai déjà fait tel et tel truc, je serais intéressée à développer telle et telle chose, donc au sein de mon institution, en quoi je peux vous aider? Donc là il m'a dit disons, t'as vachement de chance, parce qu'il y a une opportunité sur tel et tel domaine. Genre, je serais restée dans... En plus, on n'était pas au même étage, on n'avait aucune chance de se croiser, je serais pas allée voir donc la personne qui aurait pu me donner la chance de faire autre chose. J'y serais encore, quoi. Donc, et pareil pour le MAE, j'étais restée au pôle en me disant je verrai bien et tout, j'aimerais faire ça, mais je me lance pas. Donc après, c'est sûr, il faut se lancer. Je me suis reçu des claques, des échecs, parce que ça marche pas non plus à tous les coups. Mais vraiment, c'est toujours la démarche proactive, s'intéresser à tout ce qui se passe et tester, vraiment tester les différents aspects de ce qu'on aime faire, quoi. J'aimais communiquer, mais j'aimais aussi les relations internationales. J'ai fait d'abord la communication, bon, ok, mais donc après j'ai testé autre chose. Donc, et cette autre chose m'a donné encore plus de vision sur tous les métiers, enfin les métiers support à la recherche. Donc vraiment maintenant je me dis c'est ça que je veux faire, ce qui n'exclut absolument pas que peut-être que d'ici 4-5 ans je dirais avec une autre opportunité, j'ai passé encore une étape, je vais peut-être m'orienter ailleurs. Pourquoi pas aller travailler à la Commission européenne, pourquoi pas être justement, parce que je connais bien le système universitaire, donc tous les rouages, pourquoi pas aller travailler chez un consultant pour aider les universités, les équipes de recherche à monter des projets à l'international, pourquoi pas. En fait, je ne me mets pas de barrière, quoi. C'est vrai que il n'y a aucun moment je me suis dit j'ai pas les compétences pour le faire, je suis pas capable de, on me fera jamais confiance. Je connais mes limites, ça c'est évident, mais j'irai pas postuler sur un poste de juriste par exemple, parce que voilà, je sais très bien que je me ferai recaler aussitôt. Mais après je me suis dit je peux apporter dans telle institution, dans tel métier, je peux apporter ma compétence sur tel domaine, quoi. Donc ça se fait comme ça, en nouant des relations, en faisant travailler son réseau, en discutant aussi avec les gens, savoir comment eux ça se passe dans leur métier, parce qu'après on ajuste un peu ses désirs, quoi. Il y a une question.
C'est plus une remarque question, moi je sais pas trop. Moi là, c'est vrai, je suis en deuxième année de thèse, je commence à, lors de séminaires ou quoi, je commence à poser des questions parce que je sens que je commence à avoir une culture un peu de mon sujet. Quand c'est d'autres personnes qui parlent de sujets un peu plus éloignés, j'arrive pas encore vraiment à poser de questions. Donc ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure tu as dit on fait sa thèse et puis on laisse un peu de côté pour faire autre chose, et vous avez répondu pas du tout, dans la thèse on peut acquérir plein d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces autres choses qu'on peut acquérir avec la thèse, on peut peut-être les acquérir avec autre chose que la thèse. Par contre, ces compétences scientifiques que vous utilisez plus vraiment maintenant, la géochimie, je ne sais pas si vous en faites tous les jours, mais tous ces trucs que vous avez vraiment construits pendant votre thèse, vous les utilisez plus vraiment. Et Juste quand vous parlez, vous donnez une petite impression de... Vous avez fait votre thèse, c'était pas mal, mais en fait, c'était pas ça que je voulais faire. Et je pense qu'on est tous dans notre thèse vachement convaincus de ce qu'on veut faire. On veut aller par là. Et bon, d'accord, notre petit groupe, pour l'instant, il est petit, mais après, avec les post-docs, on peut évoluer, devenir des grands directeurs de recherche, je sais pas quoi. Ce que je veux dire, c'est vrai que ça donne une impression de... Quand on va aller dans les relations internationales, eh ben, on arrête cette progression qu'on avait entamée par là, où on devenait spécialiste de notre sujet, et on part dans autre chose.
Effectivement, je fais plus de géochimie au quotidien parce que je suis plus amenée à en faire. Mais c'est vrai que je le vois pas en tant que rupture par rapport à ma carrière. Ça a été, comme je disais, c'est juste une progression. Moi, je me dis, j'ai continué dans le domaine, enfin dans la recherche, dans l'enseignement supérieur. Enfin, c'est du coup à un sens beaucoup plus large que sur une spécialité bien précise. Mais pour moi, j'ai continué dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, quoi. Donc c'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir été en rupture avec quelque chose. Quand j'ai commencé ma thèse, j'étais ultra convaincue de vouloir continuer dans la recherche, quoi. Genre, bon, j'ai fait un peu d'enseignement, je me suis dit, bon, j'étais un peu moins convaincue de l'enseignement après, mais j'étais convaincue de vouloir être chercheur. Mais effectivement, après, bah, le fait de rencontrer d'autres personnes, d'avoir laissé la possibilité à moi-même de m'intéresser à autre chose, bah, j'ai vu qu'effectivement bah, j'aimais bien la recherche, parce que sinon je ne serais pas là non plus à essayer de soutenir la recherche en France et dans le monde, parce que sinon, si j'aimais pas la recherche, je serais partie faire autre chose, quoi. Mais j'ai l'impression que pour moi, qu'on travaille tous pour la même cause, quoi. Vous, dans un domaine très, très, très particulier. Moi, à une autre échelle et un domaine beaucoup, beaucoup plus large. Mais pour moi, c'est de la recherche et de l'enseignement supérieur. Moi, je n'existerai pas sans les chercheurs. Mais vous pourrez peut-être sûrement, enfin, en tout cas, j'espère, travailler peut-être un peu moins facilement si des services support, tels que donc, nos services, Jean-Paul et à moi, que ça sera peut-être un peu moins facile aussi pour vous. Donc c'est une espèce, clairement une synergie qui se crée entre tout ça. C'est la recherche et l'enseignement supérieur en France et à l'international.
En fait, je voulais revenir sur l'international. C'est le fait qu'on travaille dans l'institution internationale aussi. On peut inclure ça dans l'international. Voilà. Je pense qu'il y a aussi des institutions qu'on peut intégrer directement, quoi, après la thèse ou bien avant même la thèse. Par exemple, la FAO, absolument, la CONUSED, voilà. Parce que vous avez dit que souvent c'est difficile de les intégrer sans avoir eu d'expérience nationale, quoi.
C'est difficile d'intégrer directement, donc on était basé sur les concours d'ingénieurs de recherche. Sur les concours d'ingénieurs de recherche, donc dans la spécialité relations internationales, il y aura des candidats qui viennent de sciences politiques et d'autres qui seront peut-être mieux armés que vous pour passer ce concours. Ce que je voudrais dire, donc, c'est que, comme je me répète, votre atout, c'est votre spécialité à chacun de vous. Dans cette spécialité, l'international vient jouer, effectivement, vous en faites et vous en ferez. Si vous êtes un grand directeur de recherche, si je vous le souhaite, vous serez obligatoirement censé en faire pour développer votre laboratoire de recherche. Maintenant, donc, si vous voulez, les fonctions appui, comme le dit Ingrid, comme je le dis, sont là pour vous aider. On est là, nous, au niveau des services de l'université transversale, à aider aussi bien les laboratoires que la formation. Les relations internationales d'une université dans l'enseignement supérieur est un service qui permet donc d'extérioriser la formation et la recherche. Elle vient en appui à ceux qui veulent le faire. Ce n'est pas nous-mêmes, le responsable de la relation internationale, qu'allons le faire. C'est avec un collègue, enseignant-chercheur, qu'on le fait. Nous, on vient là en appui. Sur les différentes possibilités après, effectivement, votre thèse. Soit dans votre spécialité, vous continuez, vous faites un post-doc, vous avez un concours d'attaché, de maître de conf, donc vous continuez dans l'enseignement, donc continuez dans la recherche. soit après les grandes institutions, comme vous le dites. Et donc, comme là, je vous ai dit, vous avez soit le MAEE qui peut vous faire avoir une expérience de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, soit la FAO, où il y a là aussi des postes qui sont réservés dans le cadre de la spécialité et à l'international. Et vous avez d'autres structures. Donc ça, tout ça, vous pouvez le regarder. Il y a l'Europe. Dans l'Europe aussi, il y a donc besoin de conseillers dans tel et tel domaine de spécialité. En génétique, il peut y avoir des besoins. Donc ce sera plus un travail sur vos compétences acquises dans votre domaine scientifique qui permettront de le faire.
C'était juste pour répondre un peu à ton intervention. Là. En fait, on a un collègue qui a terminé sa thèse l'an dernier, l'an dernier à peu près, ici à Montpellier 2, en écologie, qui est aujourd'hui à l'UICN. C'est une association, enfin une organisation des Nations Unies, sœur de l'UNESCO, et c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc il a fait une thèse ici en écologie à l'ISEM sur le campus là, à Montpellier 2. Et parce qu'il avait un parcours où effectivement il avait déjà eu une expérience à l'international, il a décroché ce poste-là dans une organisation internationale réputée. Donc, et ça lui plaît tout à fait. Voilà. Ça existe. Quoi.
Ça existe, mais ce qui a primé, c'est son champ disciplinaire. Comme je vous dis, c'est votre atout, c'est votre force. Continuez là-dedans. Il y a par exemple, bon, je reprends la génétique, à l'Europe, des conseillers en génétique qui sont recrutés. Là aussi, c'est sur concours, donc il faut aller voir au niveau de tout ça. Mais bon, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous, enfin, pour moi aussi, quand j'ai fait après ma thèse, c'était de continuer à la paillasse, de publier et de voir après des collègues. Bon, ça aussi, c'est intéressant, c'est un beau métier. Donc si vous êtes docteur, c'est parce que si vous êtes engagé dans un doctorat et que vous allez soutenir une thèse, c'est parce que ça vous a plu, la recherche.